L'émission mensuelle du Graal, groupement des radios associatives libres, sur l'ensemble des radios de notre groupement, dont fait partie votre radio locale. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous, dans votre première émission mensuelle de l'année de ce mois de janvier, nous parlons des élections dans les chambres d'agriculture. Quel enjeu pour les territoires ruraux ? Autour de la table aujourd'hui, on est en compagnie des têtes de liste à la chambre d'agriculture de Haute-Vienne. Il y a d'abord Frédéric Lascaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tête de liste pour la liste intitulée d'ouverture soutenue par la Confédération Paysanne de la Haute-Vienne.
Oui.
Dire, du coup, vous êtes la liste Confédération Paysanne.
À peu près.
Pour résumer. Bertrand Vanteau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la tête de liste intitulée « Avec vous, il est temps de rendre l'agriculture aux agriculteurs », liste soutenue par la Coordination Rurale de Haute-Vienne.
C'est exact.
Voilà. Et également, Régis Desbordes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la tête de liste « S'unir pour notre avenir », une liste apparentée, soutenue par la FDSEA et les jeunes agriculteurs de la Haute-Vienne.
Oui.
On résume,
oui.
On est bon là-dessus. Avant de vraiment de rentrer dans les débats, je vais vous demander à chacun un mot de présentation sur ce qu'est votre liste et ce que vous entendriez faire pour la Chambre d'agriculture. Déjà une présentation de votre liste, c'est quoi la Confédération Paysanne, c'est quoi la FDSEA, la Coordination Rurale, qu'on sache un petit peu tout ça. Frédéric Lascaux, c'est vous qui avez été tiré au sort pour prendre la parole en premier.
Eh bien, la Confédération Paysanne, c'est un syndicat qui existe depuis 30 ans déjà, qui se présente à toutes les élections professionnelles en Haute-Vienne en particulier. Moi, c'est la deuxième fois que je me présente. Ça sera sans doute la dernière. C'est une liste assez rajeunie, quand même, que l'on a. Une liste plutôt féminine, une liste avec beaucoup de bio. C'est une liste telle que l'on aimerait que l'agriculture viennoise soit. Voilà. Et c'est pour essayer de donner une certaine inertie à cette agriculture. On est dans une situation assez compliquée où l'agriculture est attaquée de tous les côtés, où l'on a vu en 20 ans la moitié de nos agriculteurs disparaître. Et où, effectivement, on est de moins en moins nombreux et on pèse de moins en moins dans toutes les institutions. Donc, du coup, ce que la Confédération Paysanne voudrait, c'est redonner quelques lettres de noblesse à l'agriculture et la rapprocher des consommateurs qui sont nos clients, quoi, finalement. Voilà. Donc, c'est un peu cet objectif-là.
Bertrand Vanteau.
Donc, la Coordination Rurale, deuxième syndicat agricole français, qui est né en 92 d'une scission de la FNSEA, parce qu'à l'époque, on était sur un système de prix garanti, qu'on allait sur un système d'aide, et on savait pertinemment, et les créateurs de la Coordination Rurale ont dénoncé ça, que ça allait nous amener à la perte moins de paysans, moins de revenus, parce qu'on ne peut pas produire au cours mondial. Bon, ça, c'est pour resituer la Coordination Rurale. Une liste extrêmement rajeunie, moins de 40 ans de moyenne d'âge, féminisée, parce qu'une femme de plus que ce qui était demandé, ce qui nous semble important, parce que les femmes sont quand même des actrices majeures de l'agriculture haut-viennoise. Pourquoi une liste Coordination Rurale en Haute-Vienne ? Ben, tout simplement pour que les gens soient, comme on l'a fait dans le syndicat, défendus par leur chambre d'agriculture, et qu'ils soient dans la liberté d'entreprendre au total, sans qu'ils soient entravés en permanence, c'est-à-dire pouvoir vivre le mieux possible, sans contrainte, sur ce territoire qu'est la Haute-Vienne.
Et enfin, Régis Desbordes, un mot sur votre liste. On rappelle quand même que actuellement, la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne est détenue, entre guillemets, enfin, elle est dirigée, merci, par la FDSEA. Donc vous représentez cette liste. Un mot sur votre liste.
Donc en fait, c'est vrai qu'au niveau du département de la Haute-Vienne, s'est posé un certain nombre de questions très tôt, notamment par la mandature qui est en place, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui ne souhaitaient pas se représenter pour différentes raisons, soit arrivées à la retraite, soit des mandats qui... deux mandats consécutifs, voire trois mandats pour certains. Donc de travailler au niveau de la Chambre d'agriculture et d'être un élu, mais ça demande aussi beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc un certain nombre de personnes, justement, voulaient arrêter... de s'investir pour le monde agricole. Donc, on est sorti un petit peu des sentiers battus, justement, au niveau de notre projet, en tout cas de la liste S'unir pour notre avenir, parce que on n'est que seulement 4 personnes à repartir donc de cette liste-là, pour amener l'expérience que l'on a pu avoir aux côtés de Jean-Marie Delage pendant cette mandature de 6 ans, parce que apprendre aussi tous les rouages, comment fonctionne une chambre d'agriculture, qu'est-ce qu'on peut apporter aux agriculteurs. Et on a voulu sortir des sentiers battus parce que notre liste, effectivement, est apparentée FDSE AJA, mais ce que l'on a voulu, c'était aller dans la diversité, dialoguer avec les agricultrices et les agriculteurs, et c'est pour ça que depuis mars, on a créé des groupes de travail, une réflexion d'une 40aine de personnes pour construire un projet départemental, parce que ce qui nous semble important, c'est vrai qu'il y a les idéologies, il y a les méthodes nationales qui sont mises en place. Bertrand Lamanteau l'a dit tout à l'heure au niveau de la coordination rurale, on pourrait dire la même chose au niveau de la FNSEA, mais aujourd'hui, avant tout, on est sur des élections départementales, et aujourd'hui, les agricultrices et les agriculteurs de notre territoire ont besoin aussi d'être défendus localement. Donc, on a voulu faire émerger justement des idées de personnes nouvelles. Nous aussi, on a une liste qui est très jeune, puisque la moyenne d'âge est de 40 ans. Et donc avec des productions diversifiées, avec un territoire aussi diversifié, avec justement des hommes et des femmes qui ont des convictions, avec une parole libre justement pour pouvoir s'investir demain dans le chantier, dans le travail qui pourra nous accompagner justement dans la défense des agriculteurs de notre territoire.
Merci à vous trois. Michael, quel est pour Kaolin FM et l'Écho une chambre d'agriculture? Déjà, depuis quand ça existe en Haute-Vienne et ça sert à quoi?
Alors, les chambres d'agriculture créées en 1927 sont des établissements publics dirigés par des élus. Il en existe une pour l'instant dans chaque département. C'est un établissement public investi d'une double mission. Tout d'abord, une mission consultative auprès des pouvoirs publics et elle est chargée d'une mission d'intervention dans le secteur agricole. Ces activités s'inscrivent souvent dans une mission des services publics. Chaque chambre compte entre 34 et 36 membres, dont la majorité d'élus au suffrage universel qui constituent l'assemblée plénière. Sont ainsi représentés en collège les chefs d'exploitation, les propriétaires, les salariés de l'agriculture, les anciens exploitants, les groupements professionnels comme le Crédit Agricole, les coopératives et mutualités et syndicats à vocation générale. Et les membres sont élus au suffrage universel pour 6 ans. La campagne électorale se déroule actuellement et jusqu'au 30 janvier. La date de clôture du scrutin est fixée au 31 janvier sur la plateforme www.jevoteenligne.fr/chambre-agri2019. Le vote s'effectue par voie électronique ou par correspondance et l'ensemble des membres des 10 collèges électoraux sera renouvelé. Pour prendre part au vote, chaque électeur doit auparavant s'assurer qu'il est bien inscrit sur la liste électorale de sa commune et tous les électeurs inscrits sur la liste électorale recevront à leur domicile au plus tard 10 jours avant la date de clôture de scrutin le matériel de vote. Et ensuite, la commission d'organisation des opérations électorales adressera les professions de foi et un bulletin de vote de chaque liste accompagné des instruments de vote par correspondance, mais également les codes identifiants pour permettre le vote électronique et une notice explicative. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, Jean-Marie Delage a présidé la Chambre d'agriculture pendant 12 ans sous l'étiquette de la FDSEA. Et on va peut-être rappeler également les résultats de la dernière élection. La liste FDSEA-JL avait emporté avec 40,4% devant la coordination rurale 37,48% et la Confédération paysanne 22,07%.
Merci Michael. Et à ces chiffres, j'ajouterais juste qu'il y a eu 2232 exprimés sur 4502 inscrits pour le collège, le premier collège, dont on débat aujourd'hui, ce qui fait à peine la moitié des agriculteurs de Haute-Vienne qui avaient voté. Cette année sont appelés au vote un peu plus de 500 agriculteurs de moins par rapport au précédent scrutin. Donc il y a moins d'agriculteurs sur le département, beaucoup moins. Est-ce que vous craignez pas aussi une forte abstention? Parce que plus on voit dans toutes les élections, plus on avance dans le temps et plus l'abstention est forte. Donc là, déjà, il y a 6 ans, en 2013, presque 50% d'abstention. Est-ce que vous craignez pas cette abstention aussi pour ce scrutin, Frédéric Lascaux?
Eh bien, le constat, on peut effectivement que le faire, mais ce n'est pas vrai que pour l'agriculture, c'est vrai aussi dans tous les domaines où les expressions sont de moins en moins nombreuses. Alors, c'est d'autant plus inquiétant qu'un grand nombre d'agriculteurs, un grand nombre de ceux qui vont s'exprimer, des exploitants, vont avoir dans les 10 ans qui viennent la question de la transmission qui va se poser. Des décisions qui vont être prises en chambre d'agriculture sur la transmission, sur l'installation, etc. C'est des décisions lourdes qui touchent la PAC, qui touchent tous les domaines de la vie agricole et pour attirer les jeunes, pour voilà, c'est des questions essentielles et évidemment que ces gens-là, il ne faudrait pas qu'ils passent à côté de choix importants. Voilà, donc c'est effectivement, c'est ça touche tous les domaines, dont l'agriculture, mais en particulier les agriculteurs doivent se rendre compte que ces choses, que c'est les élections-là qui arrivent, vont être un tournant important à prendre pour l'avenir. Et si on ne le prend pas, c'est un peu le mur qui arrive devant.
Voilà. Installation et transmission, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission, de ce débat. Bertrand Venteau, votre avis là-dessus aussi, sur l'abstention qui est risque d'être forte encore cette année.
Alors elle est forte et pas forte, parce que pour des élections professionnelles, c'est quand même assez élevé, une abstention à 50%, ça peut paraître beaucoup, mais c'est assez élevé. Quand on regarde par rapport aux salariés, ça vote à peine à 20 ou 30%. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a certainement peut-être un dégoût, parce que les gens, les agriculteurs en particulier, sont pris dans le boulot au quotidien, le réglementaire, tout ça. Donc il y a des fois des discours qui ne passent plus, ou qui ne veulent plus entendre, ou qui sont complètement déconnectés, voilà. Mais le vote a une importance, et effectivement il a, pour orienter l'agriculture au niveau départemental, au niveau national et au niveau européen. Je dirais que si l'abstention, quelque part, c'est que tous en présence, on n'est pas bon, c'est parce qu'on n'est plus capable de faire passer un message clair, net et précis à nos électeurs. Si on intéresse l'électorat et s'ils croient en nous, ils vont voter. Globalement, pour ceux qu'ils ont envie de voter, mais ça devrait faire de l'émulation. Donc si on n'est pas capable de faire voter, c'est qu'on n'a pas le bon discours.
Régis Desbordes, votre avis là-dessus ?
Bon, un certain nombre de points ont déjà été repris par Frédéric Lascaux ou Bertrand Venteau. Effectivement, on peut avoir l'inquiétude par rapport, et l'analyse qu'ils ont faite, je peux la partager. Malgré tout, ce qu'il faut rappeler aux électeurs et au monde agricole, c'est que le droit de vote, aujourd'hui, c'est un droit qu'on a. Et c'est quand même dommage de ne pas l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, on est en démocratie, donc effectivement, on peut crier que ça ne va pas, que les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles puissent évoluer. Mais en ne s'exprimant pas, en fait, un département comme le nôtre, qui est un territoire d'élevage, en serait pénalisé. On l'a vu notamment avec la régionalisation au niveau aujourd'hui qui est en place. Hein, on a une région à 12 départements avec une terre d'élevage comme nous sur notre territoire, avec un système herbagé. Et en fait, le risque demain, si on avait un gros tour d'abstention, c'est qu'en fait, l'agriculture de nos territoires, comment elle pourrait être représentée si demain on s'imaginait dans un paysage régionalisé au niveau de la grande région qui pourrait être au sein de Bordeaux, avec des diversités de production qui peuvent être très intéressantes et enrichissantes à des moments donnés, justement pour faire progresser. Mais après, il faut être capable aussi de faire entendre sa voix. Et donc moi, ce que j'espère en tout cas, c'est que les agricultrices et les agriculteurs de notre territoire vont se mobiliser pour faire entendre que notre territoire avant tout, il existe, il est là, qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent s'investir justement pour le défendre. Et pour ça, il faut nous donner les moyens aux uns ou aux autres de pouvoir s'exprimer. Et que quand on sera élu au lendemain du 6 février, c'est qu'en fait, on puisse avoir le pouvoir de faire avoir des leviers sur le champ d'action que l'on aura mené.
Question rapide et réponse rapide. Parce qu'on
oui, arrive au terme de c'est l'un des risques justement, c'est d'avoir une chambre régionale et plus de chambre auviennoise ou corrézienne.
Ça peut être un risque. Quand on voit aujourd'hui des décisions qui sont prises au niveau national, quand on a été élu il y a 6 ans, qui aurait pensé que la régionalisation serait passée par là et qu'au bout de 3 ans, nos mandats seraient remis en question et que les cartes seraient rebattues. Donc effectivement, moi je pense qu'il sera analysé au niveau national par l'État, par un certain nombre, les résultats des élections Chambre d'agriculture. Si je fais le parallèle avec la Chambre des métiers, par exemple, aujourd'hui, ils ont un taux de vote qui est à 20%. Donc effectivement, ils peuvent nous envier, nous, le monde agricole, parce qu'on a encore un certain nombre qui se mobilisent, mais on a besoin de ces voix-là pour agir demain pour notre territoire.
Oui, un mot rapide.
La Confédération paysanne s'était battue il y a 3 ans de ça pour que la Chambre d'agriculture régionale reste basée à Limoges, parce que c'est toujours plus difficile d'aller défendre l'élevage à Bordeaux quand on a fait 3 heures de route dans un sens et qu'on doit faire 3 heures le soir pour rentrer. Quand on est viticulteur ou céréalier et que l'on habite dans les alentours de Bordeaux, c'est beaucoup plus facile de défendre son beefsteak. Donc du coup, cette régionalisation est pour nous quelque chose d'assez inquiétant pour la survie de l'élevage, puisque l'élevage est de manière générale aux extrémités de la région Nouvelle-Aquitaine et que Bordeaux en étant le centre, et donc l'élevage qui est déjà bien en difficulté aura encore plus de mal à se défendre.
Un petit mot rapide aussi, Bertrand Venteau.
Oui, tout à fait. Non, mais pour en revenir sur les champs départementaux, nous, à la coordination rurale, on y croit. Et vraiment. Alors, qu'on veuille mutualiser des moyens avec la chambre régionale, Pour nous, c'était une bonne idée au départ. Ça peut faire baisser les coûts au niveau départemental. Pour nous, ce qui compte, c'est le territoire de la Haute-Vienne. Cette chambre, elle est haut-viennoise. Elle est financée par les agriculteurs haut-viennois principalement. On n'est pas là pour aller engraisser Bordeaux, la chambre d'agriculture régionale. On est là pour que les agriculteurs du territoire soient défendus, qu'on leur facilite la vie. Et les moyens qui sont ici seront réinvestis ici. Ils repartiront pas ailleurs. Et s'il faut rentrer en résistance pour ça, on le fera dans l'intérêt des agriculteurs.
On fait une petite pause. À tout de suite.
On n'a pas le temps de perdre son temps. On est le vent, on va souffler droit devant. Regardez au loin, toujours chercher le beau. Oh oh. On a sur le cœur des rêves en couleur. On les vivra tous, non, rien ne nous fait peur. Chercher le bonheur, l'aventure sous la peau. Oh oh.
Le monde nous appartiendra demain. Le futur est en toi, regarde bien.
Ensemble on avancera main dans la main et on chantera ensemble.
Tous à l'unisson sans artifice, nos chansons a cappella. Tous en harmonie, toujours complices et chanter quand ça va pas.
Le Graal, Sébastien Péjou.
Deuxième partie de cette émission mensuelle dédiée aux élections dans les chambres d'agriculture. Les trois têtes de liste aux élections à la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne sont en notre compagnie. Frédéric Lascaux pour la Confédération Paysanne, Bertrand Ventoux, la Coordination Rurale, Régis Desbordes, une liste S'unir pour notre avenir, FDSEA et Jeunes Agriculteurs Haute-Vienne. On parle maintenant installation et transmission, après avoir parlé un petit peu des élections réellement au fond. L'installation, la transmission, ça c'est un gros problème auquel vont être confrontées les chambres d'agriculture dans les années qui viennent, puisque beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite d'ici 5 ou 10 ans. Qu'est-ce que vous, si vous êtes élu, vous ferez pour faire installer des jeunes ou pour faire installer de nouveaux agriculteurs de façon générale? Frédéric Lascaux d'abord, Bertrand Ventoux ensuite et Régis Desbordes.
Je le disais tout à l'heure, le chiffre est quand même assez parlant, mais j'aime pas beaucoup les chiffres, mais que dans les 10 ans à venir, la moitié des exploitants vont être face à la question de la transmission, c'est quelque chose qui va nous occuper évidemment toute la mandature, parce que on le voit déjà, les exploitations ont un mal énorme à être reprises. Avant, traditionnellement, ça restait dans le cadre familial, donc c'était relativement simple. C'est de plus en plus devenu marginal dans le cadre familial, et les exploitations étant de plus en plus grandes, il se pose quand même la question de qui va les reprendre. Et du coup, il va falloir de manière évidente attirer des personnes extérieures au métier. Il va falloir sans doute faire évoluer les réglementations, parce que des exemples tout bêtes, en Allemagne par exemple, il est courant que l'on ait deux activités. Commencer le métier par la petite porte, c'est aussi noble que d'y rentrer directement des deux pieds. Tout ce qui pourra être fait pour attirer du monde et le garder, bien entendu, l'histoire c'est pas d'attirer, c'est de garder, et c'est-à-dire aussi bien au niveau formation, au niveau réglementaire. La PAC, il y a de nombreux leviers qui peuvent être faits sur la PAC, sur les niveaux bas d'aide, par exemple, parce que quand on commence avec des petits élevages, on a aussi le droit d'être aidé autant qu'avec des gros, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de leviers sur lesquels on peut jouer, et de toute façon, et également le stockage du terrain, ça c'est un levier que l'on avait mis en place en Limousin, permettre à des exploitations qui n'ont pas de repreneurs de les stocker pendant 5 ans avec le conseil régional. Cette mesure risque d'être remise sur la table avec la nouvelle région, au moins faire une zone tampon pour que le terrain puisse être travaillé quoi, par les organismes, la SAFER, la DDT et les chambres d'agriculture bien entendu, pour éventuellement partager des exploitations si elles sont trop grandes et attendre le candidat. Mais il va falloir aussi les encourager, parce que les candidats ne vont pas tomber du ciel. On a déjà le plus grand mal à les trouver, donc il va falloir donner de réelles raisons pour travailler ici en agriculture.
Bertrand Manteau.
Sur l'installation, le premier point, c'est qu'il faut que les gens qui vont s'installer aient une lisibilité sur les prix ou du moins sur une marge. C'est-à-dire que le prix qui va leur être payé, il soit garanti. Voilà, ça serait important qu'on ait des filières qui puissent s'engager là-dessus. C'est très important. Après, le deuxième levier d'action, c'est de mobiliser tous les fonds pour faciliter les installations, les transmissions, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a une dispersion des fonds entre différents organismes qui peuvent œuvrer dans l'installation. Voilà, non, il faut recentrer sur un organisme qui fait de l'installation, très clairement. Et puis surtout, il faut, même si ce métier est dur, il faut donner envie à des jeunes qui s'accrochent, parce que ça va pas être facile, mais c'est très difficile pour faire passer le cap d'une installation, qu'ils fassent n'importe quoi, qu'ils soient en bio, qu'ils soient sur une grande exploitation, une petite et tout. L'important, c'est qu'ils puissent en vivre et qu'ils se débrouillent. Et c'est dans ça où nous, on doit leur donner pour une chambre les astuces techniques pour pouvoir passer ce cap, tenir, être en soutien. Voilà. Après.
C'est pas le cas, ça, actuellement ?
Non, je dirais qu'il y a une dispersion des fonds, il y a des choses qui sont pas faites comme elles devraient être faites. Voilà, il y a beaucoup d'argent qui circule autour de l'installation, mais son efficience, elle part un peu alimenter des structures plutôt que aller vers les gens qui doivent s'installer. Mais juste pour finir là-dessus, voilà, il y a une véritable émulation à faire au niveau de l'enseignement agricole pour y arriver. Et puis, il y a des gens qui sont dans un format, voilà, qui ne veulent pas forcément des productions aidées, qui vivent très bien. Il y en a qui sont des productions aidées. Mais le rôle de la chambre, c'est de faciliter tout ça et d'orienter et de pouvoir amener des filières qui sont rémunératrices sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, on est en manque de filières rémunératrices.
Régis Desbordes, une réaction sur ce qui a été dit par la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale. Et vous, qu'est-ce que vous proposeriez pour faire installer de nouveaux agriculteurs en Haute-Vienne ?
Les constats, on les fait tous. Et je pense que le diagnostic qui sont faits par mes deux collègues, on les a tous. Nous, en tout cas, au sein du projet et des agricultrices et des agriculteurs qui ont construit le projet S'unir à notre avenir, pour notre avenir, c'est que l'installation et la transmission est un des piliers qui est important pour le renouvellement des générations. Parce qu'effectivement, ça a été dit par Frédéric Lascaux, on a une pyramide des âges qui est assez vieillissante, et demain, il faut créer des vocations. Le problème, il faut prendre le problème au fond aussi, c'est que le métier d'agriculteur, c'est vrai, est un métier qui est dur, qui au quotidien demande de l'engagement, parce qu'on est sur une terre d'élevage, et donc c'est vrai que pour la plupart des agricultrices et des agriculteurs de notre territoire, eh bien, on a des animaux, et donc c'est vrai qu'on est contraint justement à être avec ces animaux-là, parce qu'ils mangent le matin, le soir, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, et dans le milieu agricole, on n'a pas forcément été positif aussi à des moments, parce que combien de parents ont dit à leurs enfants « mais si tu peux faire autre chose, va-t'en quoi ». Aujourd'hui, des jeunes qui sont dans leur cursus hors agricole, quand on leur dit « mais on veut être agriculteur », c'est souvent « mais faites pas ce métier-là ». Je dirais, moi, il faut que... Et là-dessus, on s'est tous retrouvés au niveau du groupe, c'est qu'il faut positiver les choses, positiver notre métier. Parce qu'effectivement, il y a le revenu, il y a tout qui en fait partie. Mais l'image de l'agriculture, aujourd'hui, a besoin d'être justement mise en avant, créer des vocations, susciter des vocations. Et on est persuadé que justement, sur ce projet-là, il y a des gens qui voudront s'installer. Il faudra les aider parce que le schéma que l'on a aujourd'hui n'est pas forcément tenable. C'est vrai qu'on a des structures qui sont assez importantes avec des capitaux importants lors de l'installation. Et donc, il y a certainement des passerelles qu'il va falloir mettre en place, notamment sur le portage du foncier. Parce que c'est vrai que quand on a rajouté l'achat du foncier lors d'une installation, plus le poids de bâtiment, le poids de cheptel, on arrive vite à des sommes qui sont assez importantes. Et du coup, c'est vrai que les jeunes qui s'installent en prennent pour un certain nombre d'années. Et ce que l'on est persuadé, c'est qu'aujourd'hui, tout jeune qui veut s'installer, peu importe la production, peu importe la diversité, ce que l'on veut, c'est des exploitations qui soient viables et vivables sur notre territoire. Et ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, il faut un dispositif personnalisé justement à tous les porteurs de projets. Et je veux dire, un jeune qui a un projet, une chambre d'agriculture doit être là pour les accompagner, pour être à son écoute, pour le faire évoluer. Mais un projet d'installation, ça ne se monte pas en 2 mois non plus. C'est quelque chose qu'on se réfléchit parce que quand on est agriculteur, agricultrice, c'est un projet d'une vie, c'est un projet de carrière. Donc, ça demande aussi un peu de réflexion. Et ça, on doit le mettre en place. Et puis, beaucoup travailler aussi avec les écoles de formation et notamment l'enseignement agricole, justement sur les évolutions de notre métier, sur de nouveaux schémas. Et puis, inciter les jeunes aussi à leur faire découvrir ce qu'est réellement notre métier parce que quand on est agriculteur et agricultrice, on est gestionnaire, on est animalier, on est vétérinaire, on est bureaucrate. Et donc, c'est vrai qu'il faut toucher aussi un peu à tout. Donc, aujourd'hui, il faut aussi apporter un minimum de cordes à son arc aux jeunes, justement, qui s'installent. Et c'est pas non plus qu'une fois installés que les les choses sont finies. On peut se former tout au long aussi de notre parcours. Au niveau de la Chambre d'agriculture, on a un certain nombre de formations que l'on peut proposer aux agricultrices, aux agriculteurs et qui permettent justement aux uns et aux autres de progresser. Il y a des journées techniques qui se font sur des exploitations. Certaines choses sont faites. On voit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sortent justement de leurs exploitations et qui vont aussi à la rencontre de d'autres agriculteurs parce que c'est aussi comme ça qu'on peut faire passer des messages. Et en tout cas, c'est les convictions qu'on aura et c'est ce que l'on mettra en place si on est élu.
Michael Calais.
S'il faut parler un petit peu chiffres et argent, pour une installation, pour démarrer, il faudrait compter combien entre le bâtiment, le matériel, le cheptel ou encore quelques terres pour, on va dire, un agriculteur s'en sortir et éventuellement...
Alors, tout dépend ce que c'est comme installation. Sur... Si. Après, tout dépend s'il y a le foncier à acheter ou pas. Si, sur une location, c'est toujours plus simple s'il y a déjà le foncier à moins et les bâtiments à moins, qu'il n'y a que le cheptel à acheter ou parfois même à louer, ça, ce serait la situation idéale. À condition que les cours se maintiennent aussi, parce que installer quelqu'un sans perspective de revenus derrière, même en location, c'est quelque chose qui est compliqué. Les exploitations les plus simples qui arrivent à se faire actuellement, c'est celles qui partent de quasiment rien ou pas grand-chose, c'est les exploitations de maraîchage. Le maraîchage part de très peu d'investissements, et c'est au cours de la carrière que l'on monte finalement son outil. Et même à terme, finalement, ces outils deviennent intransmissibles aussi parce que c'est difficile de racheter, de transmettre. Oui. Et donc, en fait, quelqu'un qui veut partir sur du bovin, viande pure, alors tout dépend après s'il veut faire de l'engraissement ou pas d'engraissement. Ici, la moitié de nos bêtes partent à l'export quand même, et actuellement, l'export est beaucoup plus en vogue que l'engraissement. Donc, y a des choix à faire qui sont vraiment pas évidents. Et avant toute installation, il faut réellement savoir quels seront les débouchés que l'on envisage, avec qui, comment. Et c'est bien ça qui coince souvent en bovin, même en ovin. En ovin, la filière ovine est en grande difficulté aussi actuellement. Partir sur une installation sans savoir comment de même on va pouvoir financer ces emprunts, c'est ce qui refroidit beaucoup de monde. Et quelle que soit la somme de départ, même, et surtout quand elles sont importantes, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Donc effectivement, il n'y aura pas d'installation s'il n'y a pas des revenus garantis.
Vous êtes d'accord aussi ça sur la fin des propos de Frédéric Lascaux au niveau des prix, de la rémunération? Vous en avez un petit peu parlé, Bertrand Vantot, de ça.
Non, mais on est assez d'accord. Et aujourd'hui, mais quand on a dit ça, on fait un constat. Mais effectivement, que demain, pour que le monde agricole il puisse continuer à occuper nos petites communes, parce que si on enlève l'agriculture souvent, qu'est-ce qui reste dans certaines communes de notre territoire, de notre département? Pas grand-chose. Donc effectivement, on a besoin d'être présent, on a besoin de proposer des choses, et il faut être aussi apporteur, facilitateur de décisions, parce que le constat, on est tous là à le faire, mais les installations, parce que c'était le sujet et la question, c'est que une installation, elle peut avoir un différent montant suivant la production et ce que l'on veut mettre en place. Moi, j'ai connu depuis ces 6 dernières années, notamment sur les dossiers d'installation où on avait plutôt sur notre département des productions en bovin-viande, en ovin ou en bovin-lait. Historiquement, il y a quelques années, c'était le cas. On a connu la période où il y a eu le maraîchage, on a connu la période aussi où il y a eu la partie poney, cheval, la partie équestre, et puis on a tout de suite, aujourd'hui, on a la filière volaille. Et pourquoi les gens se sont...
Il y a des modes comme ça?
Ben en fait, je ne sais pas si c'est des modes, mais c'est vrai qu'on a des choses cycliques qui se mettent en place, mais aussi parce qu'il y a des gens qui sont hors milieu agricole souvent qui veulent apporter, et ces domaines-là ou ces modes-là, c'est qu'elles demandaient moins de capitaux, donc elles étaient beaucoup plus faciles lors de l'installation. Et aujourd'hui, notamment la filière volaille, par exemple, que certains l'ont mis en diversification, parce qu'il faut être conscient aussi que sur nos productions traditionnelles, un agriculteur ou une agricultrice, il a deux bras et deux jambes, hein, et donc ce n'est pas non plus extensible. Et ce qu'on est persuadé aussi, c'est que privilégier aussi les installations en cadre sociétaire permettent aussi d'avoir une diversité et d'être moins contraignante justement aux astreintes que l'on peut avoir dans notre métier. Et souvent, la filière volaille a permis d'installer des jeunes sur des exploitations existantes ou de partir de zéro avec la filière volaille parce que, justement, il y a une filière qui est structurée avec une indexation entre le prix du poulet, le prix de l'alimentation et le prix de la revente qui permettent de rémunérer et de payer ces investissements. Et ces modèles-là, il faudrait que l'on arrive à les mettre en place, sans parler d'intégration et que les agricultrices et les agriculteurs aient les poignets liés, pour justement développer et faire que demain, il y a des gens qui se trouveront réellement des vocations dans le milieu agricole.
Bertrand Vantot, on termine cette partie avec vous.
Sur la partie installation, sur, par exemple en bovin-viande, il faut être très clair, hein, une installation bovin-viande, c'est à minima 300 000 euros. C'est à minima 300 000 euros. Le montage, il est fait comme il est fait. Voilà. Aujourd'hui, pour s'installer, il faut quand même des capitaux. Alors, vous pouvez vous installer avec 50 000 euros, jusqu'à 500 000 euros, 1 million d'euros. Je veux dire, c'est pas le chiffre qui est gênant. Ça peut paraître énorme, 500 000 euros. C'est le risque et c'est derrière, c'est le revenu que ça dégage. Vous pouvez faire une installation à 400 000 euros et sortir 20 000 euros de résultat à l'année. Bon, ça devient décent, vous allez vivre. Vous avez investi 400 000 euros et vous pouvez vous installer avec 50 000 euros et être malheureux toute votre vie. Mais ça, c'est une culture. Et c'est une culture qu'il faut inculquer aux jeunes, la culture du prélèvement privé. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir prélever. Prélèvement privé, c'est le salaire qu'on retire un agriculteur. Se serrer la ceinture pendant 10 ans, comme on a tous fait pour développer des outils et vivre avec 600 euros par mois, la nouvelle génération ne va pas l'accepter. Aujourd'hui, on doit, vu les horaires qu'on fait et compagnie, je veux dire, on fait même 70 heures semaine, hein, on va dire à 3 euros de l'heure, ça fait combien à la fin du mois? Non, c'est pas 3 euros de l'heure qu'on doit gagner. On doit gagner de l'argent. Et là, c'est bien pour ça qu'il faut ramener des filières qui sont rémunératrices, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont en place sur la Haute-Vienne et qui dégagent de la valeur ajoutée, mais qui sont incapables de la rebalancer sur le territoire et aux producteurs. En particulier, certains groupements de producteurs, et c'est là où ils se tirent une balle dans le pied pour eux, pour leurs adhérents coopérateurs, c'est qu'ils ne sont pas capables d'investir sur le territoire, ils ne sont pas capables de rémunérer. Souvent, ils ont anéanti la concurrence parce qu'elle est dérangée, ils ont fait un monopole. Et aujourd'hui, on a besoin dans ce département de ramener de la concurrence entre les opérateurs qui existent, d'en amener des nouveaux pour qu'il y ait une émulation qui se fasse, pour que ces opérateurs et ces filières soient là pour se taper la bourre et que le producteur, au final, soit le grand gagnant de ça. Voilà, les marges ne sont pas énormes, mais c'est ce qui permettra peut-être de faire la bascule. Et surtout, ne freiner aucun projet, ils peuvent paraître farfelus, tant que le revenu est derrière, il faut être à leur côté. Aider, non aider, circuit court, circuit long, voilà, on n'est pas là pour faire du délit de faciès, on est là pour faciliter et que les gens en vivent. Et aujourd'hui, le vrai message à faire passer, il faut que vous en viviez. Vous travaillez, mais vous devez en vivre.
À tout de suite, une pause.
Le Graal, Sébastien Péjou.
Troisième partie de cette émission consacrée aux élections dans les chambres d'agriculture. Quel enjeu pour les territoires ruraux? Autour de la table, Frédéric Lascaux pour la Confédération Paysanne, Régis Desbordes, FDSEA Jeunes Agriculteurs, et Bertrand Vanteau, la Coordination Rurale. L'agriculture de demain, selon la Confédération Paysanne, ça sera quoi?
Or pour nous, c'est évidemment une agriculture proche du consommateur, puisque la demande est là. La demande est de proximité et de qualité. Donc, si on veut faire un lien avec ce que l'on a dit précédemment, l'idée du revenu, c'est la valeur ajoutée que l'on pourra faire sur nos exploitations, et c'est ça qui nous permettra d'en vivre. Il était d'usage de dire avant qu'un agriculteur, c'était 7 emplois derrière induits, et ces emplois étaient ici localement. Il y avait un boucher, il y avait le maquignon déjà, et ces emplois-là, ils sont partis. Clairement, ils sont partis. Alors, évidemment qu'en ramenant de la valeur ajoutée, ça veut dire refaire des circuits, tout simplement. Recréer ce qui a disparu petit à petit. Alors, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. N'empêche que, quand on voit les magasins de producteurs, ils se portent pas trop mal. Quand on voit les AMAP, elles sont vigoureuses. Et y a une demande quand même. Évidemment que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter de la viande tous les jours, mais nous, c'est pas ce que l'on dit. Nous, on dit, il vaut mieux en manger peut-être un peu moins et de la bonne qualité, et on sait d'où elles viennent. Alors, donc, globalement, je pense qu'on aurait notre épingle à tirer du jeu sur cette argumentation là. Ce qui veut dire de la qualité et de la proximité. La proximité, j'en ai parlé. La qualité, ça veut dire des produits que l'on peut garantir, parce que quand ça vient de très loin, on ne peut pas faire cette garantie-là. Tous les accords qui sont en train de se signer avec l'autre bout du monde ne nous garantiront sans doute pas cette qualité-là, parce qu'il suffit qu'il se passe quelque chose, qu'on ne soit pas informé. Ici, on a de la réglementation, elle est certes lourde, la réglementation, elle est parfois trop lourde, elle est parfois mal ciblée, mais elle a le mérite au moins, au minimum, nous garantir ce que l'on a dans notre assiette. Voilà. Et évidemment qu'on a perdu les abattoirs. Ça, on ne peut pas faire sans abattoir. On a perdu tout ce qui est... Alors, le lait, on ne peut plus en parler beaucoup ici en Haute-Vienne. Et tout ce qui est légumes, on ne produit que 6% de ce que l'on mange ici en Haute-Vienne. C'est une catastrophe. Tout est à refaire. Agri-local, qui est l'outil du département pour les collectivités, a le plus grand mal. Autant en viande, c'est facile, autant à fournir dans les autres... Donc voilà, il faut vraiment que l'on retrouve la diversité que l'on avait par le passé. Il n'y avait pas une ferme qui ne produisait pas des légumes dans le temps. Donc on doit être capable de retrouver au moins une autonomie sur notre production de viande et faire d'autres productions que les classiques. Voilà.
La coordination rurale pour vous, l'agriculture de demain en Haute-Vienne, en Limousin, c'est quoi ?
Déjà, elle dépend de la politique européenne par rapport à la nouvelle PAC qui sera mise en place, décision au niveau européen, parce que ça a une influence sur nos territoires, la déclinaison nationale. Et elle sera aussi, plus localement, ce que les agriculteurs voudront en faire. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils resteront dans un système où on produit pour produire, parce qu'on a toujours été éduqué comme ça et qu'il faut produire pour faire vivre des filières, ou est-ce qu'ils prendront en main leur commercialisation, leurs outils, pour dire, voilà, aujourd'hui, nous, on veut bien travailler, mais vous vous assurez de nous trouver des bouchers derrière, ou sinon, on va se débrouiller par nous-mêmes. Mais ce territoire, qu'est la Haute-Vienne, il a besoin qu'on lui redonne du dynamisme et qu'on lui dise, oui, on est à votre écoute et on va vous encourager dans des productions, vous conseiller, voilà, mais vous devez en vivre. Vous devez en vivre et on vous protégera, parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi. La Chambre d'agriculture, elle a un rôle de défense, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui nous stigmatisent, nous les agriculteurs, parce qu'on utilise des produits phytosanitaires, parce qu'on est producteur de viande, et que sur un département, eh bien, ces gens-là, pour l'intérêt des agriculteurs, il faut les tenir assez loin, parce qu'ils véhiculent de fausses informations et qui dégoûtent aussi des jeunes et des gens qui sont en activité, et ça fait une contrainte de plus. Voilà, mais l'agriculture de demain en Haute-Vienne, elle sera le fait des décisions européennes, françaises, d'une politique régionale et aussi de ce que les acteurs du territoire en feront et la Chambre d'agriculture, bien entendu, aussi.
Et vous en feriez quoi ? Alors, vous feriez quoi ?
Nous, très clairement, sur la production agricole qu'il faut mettre en place, c'est de dire on vous bride sur rien, tentez l'impossible. Voilà, c'est pas compliqué. Très concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas une production qui marche ou qui marche pas. Il y a plusieurs modèles. Et ces modèles-là, faut pas les freiner. Mais surtout, faut que, les gens reprennent en main la commercialisation, qu'ils deviennent de vrais entrepreneurs. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils soient pas, mais c'est qu'aujourd'hui, ils osent pas. Ils osent pas dire aux fournisseurs, je veux d'autres prix. Ils disent pas, quand quelqu'un vient acheter leur production, tu seras pas le seul. Voilà, faut qu'ils retrouvent. Et les marges de progrès qu'ils auront sur ça permettra. Parce que ça sera vraiment des gens qui seront agressifs parce qu'on est dans un monde qui est ouvert à l'économie. Et voilà, c'est leur donner l'envie de se défendre.
Régis Desbordes, l'agriculture de demain, selon vous, selon votre liste, en Haute-Vienne, en Limousin, ça serait quoi ? Avec tout ce que vous avez entendu aussi.
Là. Alors là, bon, c'est vrai que de parler derrière Frédéric Lascaux ou Bertrand Vantaud, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ont dit. Et avant tout, je pense que tous les trois, on est des convaincus de notre agriculture territoriale. Et de la défense de notre territoire de la Haute-Vienne, des agricultrices et des agriculteurs qui y sont présents. Et que même si on peut avoir des idées divergentes à un moment donné, je pense que ce qui nous tient à cœur, c'est la défense de ceux-là. Aujourd'hui, on a, nous, la liste Soutien pour notre avenir et le groupe, dans sa réflexion, on a voulu traiter 4 thèmes. Donc, dans ces 4 thématiques que l'on a voulu traiter, qui sont très liées les uns et les autres, alors il y a l'installation et la transmission qu'on a fait auparavant, donc je ne vais pas y revenir. Le revenu, effectivement, il est indispensable qu'aujourd'hui, les agricultrices et les agriculteurs de notre territoire puissent vivre de leur production. Il n'est pas concevable à l'heure actuelle où quand le monde salarial ou quoi que ce soit aujourd'hui est aux 35 heures avec un certain nombre d'avantages, des congés payés et tout, ce qui est voilà, un droit et ce qui est le système français, que le monde agricole justement ne soit pas soumis à un certain nombre de règles et surtout de vendre ses produits à perte. Aujourd'hui, on a aussi droit d'avoir une vie de famille, on a aussi des enfants, donc on peut aussi en profiter. Et si on veut créer des vocations, ça passera par là. Le deuxième axe qui est très lié, c'est l'image. Aujourd'hui, l'image de l'agriculture, on en a un peu parlé aussi tout à l'heure, mais on a besoin de redorer cette image-là. Nous, concrètement, demain, si on est élu à la Chambre d'agriculture, La sensibilité, c'est les jeunes. Les jeunes qui sont dans les écoles, dans les primaires, qui sont dans les collèges, qui sont dans les lycées, c'est aujourd'hui pouvoir leur montrer ce qu'est une exploitation agricole, comment ça se passe. Je prends souvent un petit exemple, mais qui est un formatage de l'agriculture qui peut être fait, de la stigmatisation. Et ça, ce n'est plus possible. À côté de chaque école, souvent, dans nos campagnes, justement, on a des exploitations agricoles, c'est de pouvoir ouvrir nos exploitations, créer un peu des ambassadeurs, voilà, pour montrer justement ce que l'on fait, parce qu'il ne faut pas non plus se stigmatiser. Et je pense qu'on a voulu trop cacher peut-être les choses, ou on n'a jamais su trop communiquer. Je pense que la communication, il faut que la profession agricole la reprenne en main. Je pense qu'aujourd'hui, c'est simple d'expliquer notre quotidien avec des mots simples. Quel est notre rôle de travail, nos matières, comment on met en culture, c'est-à-dire qu'on a de l'herbe, qu'effectivement on sème du blé, mais que ce blé il est consommé par nos animaux et qu'on retrouve un produit qui va dans l'assiette. Et ce produit-là, in fine, ça a été dit aussi par Frédéric Lascaux, c'est pouvoir le transmettre dans l'assiette justement des jeunes. Et ces jeunes-là, si on arrive justement à leur inculquer, c'est pas de les stigmatiser en leur disant « vous allez avoir, demain, il faut que vous fassiez tout ça ». On l'a vu, il y a eu un débat lundi, notamment sur les attaques, pas manger de viande, pas de poisson. Je veux dire, ça commence à devenir un peu aussi ras-le-bol. Foutez-nous la paix, quoi. Les gens qui ne veulent pas bouffer de viande, ils ne bouffent pas de viande. Et les gens qui veulent en manger, ils en mangent. On arrête de stigmatiser une agriculture et des agriculteurs qui aujourd'hui font 7 jours sur 7, se lèvent la nuit pour veiller des vaches, pour agneler des brebis, pour être au quotidien à leurs animaux et se faire lyncher comme on le fait par la presse publique. Ça devient inacceptable. Donc là-dessus, il faut qu'on reprenne en main la communication. On le fait notamment avec le réseau Bienvenue à la Ferme. Moi, j'ai passé un certain nombre de temps au Jardin d'Orsay, justement avec la Chambre des métiers. On a été partenaire avec un certain nombre de producteurs qui proposaient des produits pour les moments festifs. Ça passera par là. C'est-à-dire qu'il faut aller à la rencontre de ces consommateurs-là, leur expliquer, les rassurer. Il y a des gens qui font de la vente directe. Sans cette vente directe, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est que, effectivement, les consommateurs y vont parce qu'ils ont envie de voir l'agriculteur. Tout le monde ne peut pas faire de la vente directe, mais c'est aussi un certain nombre de pistes. Et l'accompagnement des agriculteurs est forcément très important, parce que l'accompagnement d'agriculteurs, c'est le rôle d'une chambre d'agriculture. Quand on dit nos limites, eh bien, effectivement, toute personne qui a une idée, on doit avoir des agents qui sont dans la capacité d'accompagner ces agricultrices et agriculteurs dans le développement et dans le développement de ces projets-là.
La présidente nationale de la FNSEA était récemment en Corrèze et en Dordogne. Elle a parlé d'agribashing. Ça, j'imagine que tous les trois, vous le partagez. Vous avez ce sentiment, les agressions, notamment par les véganes. Vous ressentez cet agribashing tous. Et si vous êtes élu demain à la tête de la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, vous aurez à cœur de...
Non mais aujourd'hui c'est insoutenable, je veux dire, la discussion sur les véganes, on a vu de multiples actions qui se sont mises en place devant des abattoirs, on a d'ailleurs fait les boucheries, je veux dire, c'est pas possible d'avoir ces discours-là. Alors effectivement, on a peut-être été plus offensifs les uns ou les autres, mais finalement on a la même défense et on a le même message. Et je voudrais dire, ce qui caractérise bien tout ça, c'est qu'on a même fait une action tous ensemble à un moment pour le dénoncer avec de la dégustation de produits. Et je pense qu'il y a des dossiers sur lesquels on a besoin, et la profession a besoin de serrer les coudes et justement de porter une voix libre, justement, parce que ça, c'est insoutenable pour notre corps de métier, quoi.
Bertrand Manteau.
Sur le problème de l'agribashing, et en particulier par rapport aux végans, nous, depuis tout le début, on était montés soutenir le projet de Saint-Martial-le-Vieux, parce que c'était une ferme des 1000 veaux, d'accord, mais quand c'est 1000 veaux, c'est trop, 900, c'est trop, et puis c'est 100, et puis c'est 50. Donc là, voilà, ça commençait comme ça. Nous, on a eu le courage, hein, il faisait moins de 10, 30 cm de neige, on est monté une vingtaine défendre ce projet-là. Face aux végans, on a toujours été en face. Voilà. Des fois, ça a été plus que tendu, on n'avait pas toujours tous les syndicats derrière nous. On a fait du face à face, pas toujours très rigolo et à la limite du réglementaire, du moins de la loi, j'ai pas honte de le dire, mais on a pu assainir dans l'instant la problématique, ou à la coordination rurale sur la Haute-Vienne. On a eu le même problème avec les gens par rapport aux produits phytosanitaires, on va tous mourir et compagnie. Non, non, faut se calmer. Donc nous, si on est à la chambre, on va pas changer de discours. On a fait nos preuves au niveau syndical pour aller défendre les intérêts agricoles et les intérêts, voilà, on lâchera rien. Et sur, non, non, mais sur aujourd'hui, c'est un vrai problème. On prend des attaques de sociétés régulièrement et on doit savoir communiquer. Moi, je regrette quand même si des fois on a pu effectivement avoir un discours commun avec les syndicats, sur le dossier des végans, on a quelque chose qui s'appelle l'interprofession InterBEF, c'est l'interprofession bétail et viande, qui a des moyens, qui devrait communiquer, et ce n'est plus, malheureusement maintenant, au niveau national, à nous de communiquer de façon intensive. C'est à cette structure-là, où on siège en tant que syndicat, mais on n'est pas les seuls, il y a toute une filière, et l'InterBev doit se réveiller, doit mettre les moyens pour faire une communication offensive sur la viande, comme quoi la viande est un bon produit, voilà, il y a des moyens, c'est à eux de communiquer. Les syndicats, ils font leur boulot au niveau départemental ou régional, mais on ne peut pas aller plus loin, c'est pas notre rôle.
Frédéric Lascaux, on imagine que vous n'allez pas forcément être tout à fait d'accord sur la ferme des Millevaux.
Non, mais pour répondre à Bertrand sur la présence des syndicats ou pas, il est vrai qu'à la première manifestation des végans qu'il y avait eu à Limoges devant l'abattoir, nous n'avions pas souhaité y aller parce que pour nous, c'était un tout petit nombre de personnes et que d'y amener la presse et tout, c'était un moyen de leur donner une audience qu'ils ne méritent pas. Voilà. Donc c'était uniquement pour ça qu'on ne l'avait pas fait. Et l'année suivante, on s'est retrouvés tous ensemble, place de la Motte, pour faire une opération qui était, à mon avis, beaucoup plus productrice. Voilà. Il y a une chose qui est très importante aussi de dire, Régis en parlait tout à l'heure, c'est comment communiquer sur comment nous, on produit ici. Et on ne produit pas comme tout le monde produit dans le monde entier. On est en train quand même de signer des accords et il y a aussi des dettes que l'on a envers les États-Unis sur de la viande, etc., qui risquent de nous arriver, qui ne sera sûrement pas de la même qualité que la nôtre. Donc il y a un moment où le consommateur qui vit à Paris dans sa tour est un peu perdu parce qu'il entend parler de glyphosate, il entend parler des abattoirs où ça se passe mal, il entend parler de viande qui ne vaut rien parce que c'est nourri industriellement. Et là-dedans, nous, à part le salon de l'agriculture une fois par an à Paris, on a très peu de tribunes. Voilà. Donc effectivement, je pense qu'il y a une différence à faire. Toutes les productions de viande ne sont pas à mettre dans le même panier et que nous, Limousins, Haute-Vienne, on a quand même sacrément faire connaître ce que l'on fait et l'herbe quand même, c'est la production de viande à l'herbe en termes de CO2 et de tout ce que l'on veut sur la planète, on est loin d'être d'avoir une mauvaise action quoi finalement. Donc tout ce qui est reproché à la viande ne nous est pas forcément reproché à nous, mais à nous aussi de le faire savoir. D'où l'intérêt de communiquer, effectivement.
En 25 secondes chacun, est-ce qu'il faut que la Haute-Vienne sorte du glyphosate et n'en utilise plus, Bertrand Vanto?
Certainement pas, parce qu'il faut avoir un peu de recul scientifique par rapport à ça. C'est une molécule qui existe, elle avait un intérêt, on n'a pas non plus pollué. Et le vrai problème du glyphosate, c'est qu'aujourd'hui on va l'interdire, mais il y a de nouvelles formules qui sortiront, et un produit dont on ne connaît pas l'efficacité. Voilà, le problème c'est que le glyphosate était tombé, pour faire très clair, dans le domaine public, et que ça rapportait plus à Monsanto et aux gens qui revendaient. Voilà, est-ce que ça a vraiment sauvé la santé publique d'interdire le glyphosate? Je pense qu'il y a d'autres problématiques.
Régis,
aujourd'hui, sur un département comme le nôtre, où on a des IFT qui sont très basses, et on l'a connu notamment quand on a mis en place une MAE finition sur notre territoire, c'est que le département n'était pas référencé par rapport à ça. Mais par rapport au sujet du glyphosate, aujourd'hui, on peut demander des choses au monde agricole. Sauf que quand on est agriculteur, ça demande aussi du temps de mise en place. Et c'est, aujourd'hui, ce qui n'est pas bon, c'est l'adaptation que l'on n'a pas. Qu'on interdise des choses ou qu'on veuille tendre vers une agriculture qui soit différente, pourquoi pas? Mais laissons le temps aux agriculteurs aussi de s'adapter et que le couperet ne soit pas immédiat et que derrière, comment on fait pour pallier à ça? Parce qu'effectivement, on interdit, mais comment on continue à produire? Et entre-temps, si on remet en cause nos schémas de structure et nos schémas de nos exploitations parce qu'il y a une directive nationale qui tombe ou européenne, ce n'est pas acceptable.
La Confédération paysanne avait toujours été pour la sortie du glyphosate à une condition, c'est que les agriculteurs soient aidés pour la transition. Quand on voit que sur les aides à la bio, les aides mettent 2 ans à arriver et que ça ne représente que 4 ou 5% des agriculteurs, comment 95% des agriculteurs qui restent pourront être aidés à en sortir? Donc c'est un non-sens d'en sortir s'il n'y a pas les aides qui vont derrière. Et on voit mal, avec l'ultimatum qui est fait, comment on va pouvoir former les gens. Alors les chambres auront sans doute leur rôle à jouer, mais y a le travail est devant nous.
Une pause avant la dernière partie.
Je chante la terre pour la rendre un peu moins fragile. Je chante la terre pour les paysages qui défilent, pour les glaciers blancs qui coiffent les pôles dociles, et les océans qui caressent le tour des îles. Je chante la terre. Je chante la terre pour la rendre un peu moins fragile.
Dernière partie de notre émission consacrée aux élections dans les chambres d'agriculture et du coup focus sur l'élection en Haute-Vienne avec les 3 têtes de liste autour de la table, Frédéric Lascaux, la Confédération Paysanne, Régis Desbordes, FDSEA, JA et la Coordination Rurale avec Bertrand Vanto. Si vous êtes élu à la fin du mois, dans les premiers jours de février, quel sera votre première décision. Frédéric Lascoalle.
De manière évidente, il va falloir se plonger dans le financement de la Chambre et dans le détail de où va l'argent finalement. Puisque si l'on veut prioriser la formation, si on veut... Nous, ce que l'on voudrait, c'est que chaque action... on est en retour sur cette action. Est-ce que c'est de l'investissement? Parce que c'est quand même en grande partie l'argent des agriculteurs. Donc, est-ce que cet argent, effectivement, a eu un intérêt pour l'agriculture du département en termes de formation, en termes d'image, en termes de beaucoup de sujets? Mais on ne peut pas rester toujours sur les mêmes traditions. Il y a sans doute quelque chose à bouger, puisque vu l'évolution du monde agricole, tout n'est pas fait pour. Voilà. Et je veux bien croire que le contexte extérieur est lourd, mais la Chambre a quand même son rôle dans des choix importants. Est-ce que aux jeunes, par exemple, elle s'adresse assez? Est-ce que, je veux dire, avant de rentrer dans le métier d'agriculteur, quand on est agriculteur, effectivement, c'est important de pouvoir être aidé, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi... alors, Régis parlait des lycées, mais il n'y a pas que des jeunes aussi qui peuvent accéder à l'agriculture. Et puis, il y en a qui peuvent se tromper aussi. Voilà. Donc, en termes de formation, je pense que la Chambre, elle a énormément à faire.
Donc ça serait la première action, le premier sujet sur...
Je pense que, d'abord, orienter le financement sur cette formation et accéder au métier. Et après, le reste, effectivement, ça en découle.
Régis Desbordes, c'est quoi la première décision si vous êtes élu là, dans quelques jours?
Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'une Chambre d'agriculture, et il faudra se mettre très rapidement au travail et avoir les équipes. Parce qu'en fait, un président tout seul, il n'est rien. Et aujourd'hui, il y aura 33 élus à la Chambre d'agriculture. Il y en aura 18 du Collège des exploitants. Mais il y a aussi les autres collèges qui seront en place. Donc effectivement, il y aura une session d'installation qui aura lieu, qui sera en mois de mars. Et justement, il faudra trouver aussi des acteurs pour pouvoir travailler et porter ces projets-là. Parce qu'une seule personne ne pourra pas tout faire, ou deux personnes. Il faut une équipe. Il y a des dossiers qui sont en cours. Ces dossiers-là, lesquels sont repris, lesquels sont priorisés. Donc ça, effectivement, en fonction des personnes qui seront en place, nous, ce qui nous tient à cœur, et j'en ai débattu longuement, l'image de l'agriculture nous semble incontournable. Et aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ces messages-là, et donc on mettra tous les moyens, justement, pour redorer le blason de l'agriculture. Mais il faudra qu'on le fasse tous ensemble. Aujourd'hui, on est trois membres sortants aussi de la Chambre d'agriculture. Demain, il y aura de l'opposition aussi. Il faudra qu'on trouve des consensus de travail et on aura bien besoin de tout le monde pour pouvoir travailler dans l'intérêt des agriculteurs, des agricultrices et surtout du territoire de notre agriculture.
Si la coordination rurale arrive en tête, c'est quoi la première décision que vous prendrez à la tête de la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne ?
La première décision qu'on prendra, c'est ce qu'on dit dans nos réunions publiques, c'est qu'on veut savoir l'état des comptes. Voilà, parce qu'on a besoin de savoir dans quel état financier est vraiment la Chambre. Parce qu'on peut présenter un budget, mais un budget, on lui fait dire tout et n'importe quoi. Et je pense que, vu la dernière mandature et ainsi de suite, on a vraiment besoin d'y voir clair. Pour nous, même si on est en session, qu'on était là à l'examen des budgets et tout, les choses sont assez opaques. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura plus de financements qui partiront à des structures sur lesquelles il n'y a pas de retour pour les agriculteurs. Le financement des syndicats ou les partenariats, c'est fini. Le gaspillage d'argent des agriculteurs, d'argent public, c'est fini. Et après, très concrètement, déjà, on assainit les finances. Et après, on va remettre les agriculteurs, c'est les agriculteurs qui sommes nous, à gérer cette chambre dans l'intérêt des agriculteurs et pas des filières. Pas des filières, pas des banques, pas des assurances. On est là pour que les agriculteurs en vivent. Et on veut sortir ce système-là, et ça, c'est le premier objectif. Mais comment voulez-vous qu'en réunion publique, on puisse ou écrire qu'on va tout révolutionner et que tout va bien se passer? On ne connaît pas l'état financier de cette structure. On ne peut pas mentir aux paysans. Quand on ment à des électeurs, on se fait rattraper. On le voit en ce moment, ou depuis longtemps. Donc non, on aura un discours de vérité. Et on ne lâchera pas ce discours de vérité.
Sur le terrain, les salariés qui ont l'habitude de travailler selon les directives de la FDSEA, l'équipe sortante, il faudra peut-être un certain temps d'adaptation par rapport à certaines habitudes. Là, c'est plutôt pour Bertrand et Frédéric.
Très concrètement, pour la coordination rurale, nous, les salariés de la Chambre, ils auront liberté totale de parole et d'action dans l'intérêt des agriculteurs. C'est-à-dire que s'il y a des structures autour qui ne jouent pas le jeu, et je me répète, banque, assurance, des gens qui soient issus du système coopératif ou privé, qui sont là pour assassiner, enfin pour saigner au maximum des agriculteurs, et bien voilà, les agents de la Chambre seront là pour que les paysans soient heureux, défendus et vivent de leur production. Et ils pourront agir techniquement et de parole tout à fait librement.
Pour nous, pour la Confédération Paysanne, évidemment que les salariés, c'est la richesse de la Chambre, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. La Chambre avait pris une décision qui était de répartir sur tout le territoire les salariés. C'est quelque chose qui a du sens. Nous, on n'imagine pas que les salariés ne pourront... Puisqu'ils voient les difficultés des paysans au le jour. Donc, toutes les actions que l'on veut faire vont dans le sens d'aider les paysans. Donc, pour nous, c'est effectivement notre bras armé que d'avoir des techniciens qui sont capables de faire le va-et-vient entre le besoin et la politique que l'on doit mener. C'est comme ça qu'on a construit notre discours. C'est comme ça qu'on continuera à l'étoffer tout au long des 6 ans à venir.
On arrive au terme de l'émission. On va avoir une parole libre à chacun. On a fait un tirage au sort aussi tout à l'heure pour savoir qui prenait la parole en dernier. Ça sera donc Bertrand Vantot, puis Frédéric Lascaux, puis Régis Desbordes. 1 minute 30 chacun pour conclure et peut-être du coup pour expliquer aux agriculteurs qu'il faut voter pour vous à ces élections. Bertrand Vantot, à vous pendant 1 minute 30.
Ben, tout simplement pour dire que ce qu'on a pu mener pour développer un syndicat et qui aujourd'hui a un certain nombre d'adhérents qui est à jour et qui cotise chaque année, parce qu'on est quand même parti de zéro en 2012 et sans financement public, sans rien, on est là, on a 150 adhérents, on a aidé des gens. Moi j'ai vu des situations dramatiques. Parce que c'était le bazar financier sur des structures. On a été là en soutien. On a pu aider des gens par rapport à des aides qui avaient sauté. On a fait des démarches. Quand il a fallu défendre des gens par rapport à une menace, je dirais écologiste, parce qu'ils ont pris des amendes par les services de l'eau et tout, mais ça, c'était vraiment aller trop loin. On a pu sauver ces dossiers-là. C'est-à-dire, on a été à l'écoute des agriculteurs. On leur a rendu service par du bénévolat. Et je crois qu'aujourd'hui, au niveau d'une chambre consulaire, l'énergie qu'on a déployée sur un syndicat pour faire des actions, pour défendre et que les agriculteurs soient et agricultrices soient heureux et épanouis dans leur métier et qu'ils se sentent défendus, oui, on le fera à la Chambre. Et je pense qu'on est une équipe, qu'on est capable de faire nos preuves, que la mission sera dure, qu'on ne connaît pas l'état financier de la Chambre. Et je répète, donc on ne peut pas faire de fausses promesses ni bâtir un programme qui serait « vous allez tous être heureux, tout va bien se passer ». Non, on va vous faciliter la vie. Voilà, on le fera. Ça sera un engagement personnel de tous les membres et qui sera dévoué à la cause agricole du département et à toutes les agricultures.
Frédéric Lascaux, 1 minute 30 également.
Et la Confédération Paysanne, c'est aussi un réseau. C'est l'ARDEAR qui s'est occupé de formation depuis des années. C'est Solidarité Paysan qui aide beaucoup d'agriculteurs en difficulté. Et toutes ces années où ce réseau a été activé, on a quand même sur le territoire fait remonter beaucoup d'informations et c'est notre richesse en fait. Et en fait, on est tout ce que l'on voudrait pour la Chambre. On est très optimiste pour l'avenir. On est très inquiet, mais aussi très optimiste parce qu'on voit toutes les marges de manœuvre. On voit aussi tous ceux qui veulent s'installer, qui ont des projets, mais qui parfois se retrouvent au pied du mur devant la Chambre parce qu'ils ne rentrent pas forcément dans toutes les cases qui avaient été dessinées jusqu'à présent et que parfois il faut un peu d'imagination, un peu d'ouverture. Et c'est à notre avis ce qui manque le plus. Et alors donc nous, riches de cette expérience-là, on voudrait quand même que aucun agriculteur ne reste à la porte de la Chambre. Et donc du coup, on va essayer. On ne peut pas se déconnecter du consommateur. Pour nous, c'est vraiment notre faire-valoir. Et donc, on apportera une réponse pratique. Et l'agriculture d'ici sera en sorte qu'elle réponde à cette demande de valorisation de tous nos produits locaux. Voilà. Et donc, on est très optimiste, mais on a beaucoup de travail sur la planche.
Et Régis Desbordes, 1 minute 30 également.
Donc nous, le projet de la liste de notre avenir, donc c'est vrai que vous nous assimilez aussi à la FDSE AOJA, donc tout le monde connaît mes valeurs et le parcours que j'ai pu avoir, et donc l'expérience que j'ai pu obtenir ces dernières années. Mais on a voulu sortir des sentiers battus parce que, justement, pour donner la parole aussi à un certain nombre d'agricultrices et d'agriculteurs, parce qu'on en faisait un petit bilan tout à l'heure, aujourd'hui, si on prend le nombre de personnes qui sont réellement syndiquées sur le département, finalement, c'est un pourcentage très faible. Et donc, c'est se poser la question de pourquoi il y a des personnes qui se retrouvent à nulle part et comment on leur tend la parole. Et en fait, en élargissant notre champ d'action et par notre programme et le travail que l'on a fait au quotidien depuis de longs mois maintenant autour du projet S'unir pour notre avenir, c'est que justement, on a été à la rencontre de femmes et d'hommes dans la diversité des productions pour justement les écouter et voir quelles sont leurs problématiques. Ce programme que l'on a écrit, on l'a écrit nous-mêmes avec nos tripes, on y a passé des soirées pour justement proposer quelque chose de réaliste, de mise en place en alliant justement la diversité de femmes et d'hommes engagés, des jeunes, des moins jeunes, de l'expérience, des nouveaux aussi qui arrivent, mais pour faire part aussi de cette fougue-là. Et on mettra tout en place pour justement accompagner le monde de l'agriculture, notre territoire, nos valeurs, parce qu'on a des valeurs. La Chambre d'agriculture est un formidable outil, qui est l'outil des agriculteurs, comme tout autre qui ont été présentés tout à l'heure, parce que les différentes OPA de notre département aussi, c'est les outils des agriculteurs. Donc peut-être qu'on ne s'y est pas investi aussi de la manière que l'on aurait dû pour en prendre la main. Et donc il faudra qu'on oriente, construire, pas non plus tout casser ce qui existe, mais c'est reprendre la main et mettre en place tout ça, et en tout cas aux électeurs et aux électrices, voter, parce qu'il est important de donner du poids justement au monde agricole pour que demain on puisse faire porter notre parole.
Michael Calais, on peut voter, les agriculteurs, les presque 4000 agriculteurs de Haute-Vienne peuvent voter jusqu'à quand et comment?
Alors jusqu'au 31 janvier sur la plateforme www.jevoteenligne.fr-chambre avec un S-agri 2019.
Bertrand Vanto, Régis Desbordes, Frédéric Lascaux, merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Cette émission a été enregistrée le mercredi 9 janvier à Saint-Thierry-la-Perche dans les studios de Kaolin FM. Émission diffusée sur l'intégralité des 13 radios du groupement des radios associatives libres en Limousin et Périgord. À la réalisation Julien Richard, merci à Michael Calais, merci à vous tous pour votre fidélité. À très bientôt.
L'émission mensuelle du Graal, groupement des radios associatives libres. Sur l'ensemble des radios de notre groupement, dont fait partie votre radio locale.